La barge russe. Tous les jours, à 14h, sur Jet FM, avec Johnny Tiefbeck et Helmut Schwartz. Cyberpunk's Not Dead par Yannick Rumpala aux éditions Le Belial. Je remarquais que la Chine, c'était une représentation extrême du cyberpunk. Est-ce que dans le sens des néolibéralismes, de l'exploitation des hommes, tout ça, je voulais savoir si vous, avec le Cyberpunk's Not Dead, l'essai paru au Belial, vous étiez d'accord ou non avec ça, ou ce que vous en pensiez plutôt?
Ouais.
Mais effectivement, quand on reprend ce qu'ils ont écrit à 30 ans de distance, on peut déplacer à quelques centaines de kilomètres et ça donne presque la vision de ce qu'ils avaient écrit. Alors, avec une petite nuance, parce qu'effectivement, la vision des cyberpunk, elle est plutôt une vision dans laquelle l'État s'est désagrégé. Et effectivement, c'est pas le modèle chinois, quoi. Le modèle chinois, c'est une espèce de mélange entre un État fort et quasi totalitaire et un modèle capitaliste. Absolument exacerbé, effectivement, et qui n'hésite pas à utiliser toutes les ressources technologiques pour maintenir sa domination. Il y a un petit truc aussi que n'ont pas vu les auteurs cyberpunk, c'est. Ils l'avaient vu un petit peu, mais pas aussi poussé que ça ne l'est aujourd'hui. C'est toutes les technologies de reconnaissance et de traçage des personnes, quoi. Et la Chine, pour le coup, l'emploie à une échelle.
C'est vrai, vous avez complètement raison. Ah ouais, moi aussi, ça m'a échappé. Ah oui, bien vu, c'est très juste.
La reconnaissance faciale, le couplage de toutes ces technologies de suivi des personnes, voilà. On en a quelques prémices dans certains romans de Uli Gibson et dans d'autres, mais je pense que les auteurs n'étaient pas encore en capacité d'imaginer à quel point ces technologies.
Ouais, voilà, c'était les atmosphères qui n'étaient pas comme ça. Mais par contre, là, moi, j'ai fait un petit dans l'émission. Je parle de Philippe K. Dick, bon, les grands auteurs, hein, Spinrad, Brunner, qui eux ils auraient fait du pré-cyberpunk en un sens, avec des romans comme Ubik, Jack Baron et l'Éternité.
Un auteur ne part jamais nulle part. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, comme tous. Puis,
une forme d'inconscient, un imaginaire qui est déjà présent. Et en un sens, quand on refait l'historique de ce mouvement littéraire, il doit beaucoup à des gens effectivement comme Dick et notamment Brunner. Enfin, c'est ce qu'a écrit Brunner est une forme de préfiguration.
Oui.
L'invention du virus, ou en tout cas l'imaginaire du virus informatique, c'est pas cyberpunk, hein, c'est Brunner.
Dans Zibar, oui.
Oui, sur l'onde de choc.
Oui. Je l'ai pas lu celui-là. J'ai certainement lu moins de livres SF que vous, c'est sûr. Autrement, il y avait le cyberpunk. Je me suis demandé s'il s'agissait pas d'une volonté. Du haut modernisme, donc de la puissance du high capitalisme, si on pourrait dire ça comme ça, pour mettre ça dans les plans de l'humanité, quoi, pour dire bon, alors on va faire dans les années 80, on va faire une vague cyberpunk histoire qu'on étouffe ce qui va leur vraiment arriver à l'humanité 20 ans plus tard, quoi. Est-ce que ça c'est pas un truc auquel on peut penser, ou bien qui nous échappe.
Dans une certaine mesure, c'est presque l'interprétation qu'en fait le grand théoricien de la littérature qui s'appelle Frederick Jameson, je cite au tout début du livre, qui voit effectivement le cyberpunk comme l'expression de ce qu'il appelle le postmodernisme, ou ce qu'on pourrait appeler la postmodernité, parce qu'effectivement, donc au moment où les auteurs écrivent, donc c'est en plein dans les années Reagan, hein, c'est les années 80, c'est une période de bascule à la fois au plan économique, politique et technologique, et Jameson considère qu'effectivement c'est l'expression presque exacerbée d'une certaine forme de capitalisme, un capitalisme qui est en train de muter grâce aux innovations technologiques, grâce aussi à la financiarisation de l'économie. Et c'est un peu ça que sentent intuitivement les auteurs cyberpunk, quoi. Ils sentent qu'ils sont à un moment de bascule. Et ils le traduisent littéralement par une espèce d'anxiété, d'où toutes les atmosphères sombres de déliquescence, parce que c'est ce qu'on voit se dessiner à bas bruit dans ces années-là.
Ouais, complètement. Ouais, donc aussi, je parle de concurrence des néolibéralismes. En fait, dans le cyberpunk, ce qui me paraît être un point fort, c'est justement les monopoles. Les monopoles qu'il n'y a plus qu'une seule entité qui contrôle les monopoles. Et là, c'est la concurrence qui peut... Il n'y a plus de concurrence, en fait, des marchés.
Il en reste un petit peu, parce qu'en fait, certaines mégacorporations sont pas complètement dominantes sur leur marché. Une relative forme de concurrence, mais ça dépend des auteurs. Si on prend William Gibson, par exemple, le deuxième tome de la trilogie de la Colombe, en fait, il y a un des héros qui est une espèce de mercenaire qui va essayer d'aller chercher un grand ponte d'une espèce d'ingénierie génétique en l'extrayant en quelque sorte d'une multinationale pour la transférer dans une autre multinationale. Donc il y a encore des relatives formes de concurrence. Donc c'est plus des oligopoles avec des méga-corporations qui quasiment dominent leur marché. Mais oui, il n'y a plus d'espace économique en dehors de ces grandes entités, de ces grandes firmes, quoi. Tout ce qui est petit commerce, etc.
Mais il n'y a plus ça.
On a l'impression que ça a disparu, quoi.
Mais je ne sais pas d'ailleurs si vous avez lu Jean Barret, Trademark. Il a fait une trilogie de Trademark, il est au Bélial. Et il a fait un truc qui est fantastique. Vite, Fred Mark, c'est son deuxième volet là, son troisième va sortir en automne. Et c'est vraiment c'est fantastique. Enfin, faut le lire. Si vous avez 5 minutes pour le lire un jour, ça fait 220 pages, 230 pages.
J'ai une pile.
Ah ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu que vous étiez professeur ou en Sciences Po en plus.
Voilà, j'enseigne la science politique à Nice.
Ouais, c'est ça. Ouais, maître de conférence, pardon. Ouais, donc ça doit faire pas mal de travail. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que rien que pour faire les cours, pour corriger les cours, enfin les...
Non, en fait, la science-fiction, c'est, j'allais dire, pour m'amuser, quoi.
C'est un plus, quoi.
C'est par rapport à mes travaux de recherche centraux, c'est un peu périphérique.
Ah ouais, d'accord.
J'y ai pris un grand plaisir, enfin, c'est...
Ouais, bah bien sûr, j'en doute pas, hein, pour écrire des trucs comme ça.
Pour situer, il faut le lien avec la Sciences Po, en fait, ce que j'essaie de montrer, mine de rien, à travers mes livres, c'est que c'est pas que pour s'amuser, c'est aussi une manière de réfléchir politiquement et éthiquement sur un certain nombre d'enjeux. En sciences politiques, en fait, on a une sous-discipline qui s'appelle la théorie politique ou la pensée politique, qui est assez proche. mot de la philosophie politique. Et en fait, toute une série de thèmes que je brasse, entre guillemets, sont une manière de faire de la théorie politique ou de réappréhender un certain nombre d'enjeux politiquement par le biais de la science-fiction. Et effectivement, c'est ce que j'avais fait avec le bouquin précédent,
ouais.
Hors des décombres du monde, mmh. où je m'étais dit, bah oui, tiens, la science-fiction parle beaucoup des enjeux écologiques, et qu'est-ce que ça peut nous dire de la manière de saisir les enjeux écologiques, et comment la science-fiction peut aider à penser ou repenser un certain nombre d'enjeux écologiques. Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, habiter une planète. Qu'est-ce que ça veut dire garder une planète habitable. Et en fait, quand on reprend cette question-là, on s'aperçoit que la science-fiction a quasiment dès le début réfléchi à la manière de ce que ça veut dire habiter une planète.
Oui.
Classiquement, voilà, classiquement c'est Dune, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire habiter une planète désertique où les conditions de vie sont extrêmement difficiles et obligent à gérer, par exemple, l'eau qui est très rare.
Oui. Vous avez complètement raison. Parce que je vous écoutais parler et je me disais, ouais, c'est vrai que dans la science-fiction, il y a surtout aussi l'anticipation, dont il est fortement question de ces points-là. Mais quand vous disiez ça, je repensais aussi en même temps à un autre livre, bon, qui n'est pas très loin de l'anticipation, mais de James Blitch, Semaille humaine, ou un truc comme ça, et qui reprend à peu de choses près parce que les trucs que vous venez de dire, les installations, les constructions interplanétaires, quoi. Ouais, c'est ça.
On peut reprendre, comme je le disais, on peut reprendre l'histoire de la SF à l'aune d'un regard écologique, hein, et même les classiques comme Wells, Herbert-George Wells,
ouais.
On a déjà des formes de réflexion sur les enjeux énergétiques, voilà, sur la rareté potentielle de certaines ressources, donc en l'occurrence à l'époque c'était charbon, hein,
ouais.
Sur lequel Wells se posait un petit peu des questions, mais voilà, on peut refaire le fil de la littérature de SF avec un prisme écologique.
Ouais, complètement.
Donc c'est, voilà, c'est...
Non, mais je voulais dire, dans les années 80, c'était surtout l'arrivée du numérique, qui était nouveau, qui était moderne, on va dire, et qui attirait peut-être les lecteurs aussi à quelque chose, alors qu'aujourd'hui, ce serait davantage l'écologie, ouais. Mais en un pôle, le cyberpunk, qui en fait touchait à tout. On voyait le cyberpunk, par exemple.
Le cyberpunk acte, en quelque sorte, la disparition des écosystèmes, enfin, quand on les lit.
Ouais.
Ils font comme si la dégradation de l'environnement allait se poursuivre, j'allais dire nécessairement. Enfin, pour eux, c'était une trajectoire dont on ne pourrait pas s'échapper. Et à la limite, la création du cyberspace, c'est une manière de fuir le désastre écologique.
Oui, c'est ce que vous mettez dans ce que vous dites, ouais, dans votre livre. Oui,
tout à fait.
Ouais.
Voilà, c'est donner un monde alternatif face à un monde qui est devenu quasiment invivable. Donc, où est-ce qu'on va,
c'est ça.
Se réfugier dans l'onirisme ou
mais...
autre forme de vie qui est celle du...
Et c'est complètement les images, dans mon sens, que j'ai, et j'espère, je pense, qui sont du cyberpunk. Il y a tout en bas où c'est hyper sale, là, et puis tout en haut où c'est des, comme dit Richard Canal dans son livre Upside Down, en haut c'est les atolls où il y a les super riches, quoi. Et en fait, en repensant à tout ça, moi, le film Star Wars, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on voit, surtout dans les trois premiers, là, 1, 2, 3, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, on voit ça, en fait, le bas qui est sale, en gros, hein, je dis sale, j'espère que les gens comprennent, et puis après, il y a la cité super luxe, où il y a les princesses qui vivent, quoi.
Mais ça, c'est un trope classique, hein, dans la science-fiction, c'est la verticalité,
ouais,
c'est
ça,
la
manière
de métaphoriser la lutte des classes, en quelque sorte.
Ouais, bien, ouais.
Voilà, et dès Métropolis, au cinéma, on voit effectivement cette lutte des classes avec le bas et le souterrain qui est réservé aux classes laborieuses.
Ouais, bien sûr.
Et puis les riches qui ont les moyens de s'élever la stratosphère, en tout cas les niveaux luxueux des immeubles. Et pour le coup, la verticalité, elle est classiquement analysée comme une métaphorisation des inégalités sociales. Voilà. Avec un bas, souvent très sombre, très sale,
ouais.
Crade,
ouais, c'est ça.
Très populeux. Et puis un haut qui est plutôt réservé aux classes aisées. Ouais.
Ouais,
c'est la forme ultime, c'est ce que font les auteurs cyberpunk, c'est le départ en orbite. C'est-à-dire que les riches, donc au lieu de se faire un immeuble très haut, bah, se construisent des stations post-spatiales luxueuses où ils partent vivre une vie d'abondance et
ouais, voilà.
Du coup à l'écart des défavorisés.
sur leur petit truc, ouais, d'accord.
Ouais, ce qu'on retrouvera dans Elysium au cinéma, par exemple.
Ouais, celui-là, je... Pour... Je l'ai pas vu. Celui-là.
Voilà, mais c'était déjà dans le cyberpunk.
D'accord.
Quand on prend Neuromancien, la famille de Cécile Ashpool, la riche famille, se fait construire une espèce de Las Vegas en orbite, où elle installe sa résidence à l'écart du peuple. Dans Câblé de Walter Jones Williams, c'est pareil.
Oui.
C'est un schéma similaire. Les orbitaux construisent leur habitat et leurs usines en orbite. Et pour le coup, arrivent à dominer la Terre grâce à leurs installations en orbite.
Et donc c'est de 82, le Neuromancien, je crois. Vous avez dit non?
Non, c'est 84.
84, ouais. D'accord.
Ouais.
Vous savez aussi, je vous avais parlé d'une présence que je trouvais. Donc je ne savais pas si c'était très bien expliqué, mais. Que dans le cyberpunk, dans tout, bon, c'est des fictions, donc on arrive à entrevoir des présences, sentir quelque chose, peut-être que c'est par la lecture, tandis que bah en fait dans la réalité aujourd'hui, qui le cyberpunk en est l'image, mais même l'anticipation, il n'y a pas cette présence. Enfin pareil, c'est moi qui le ressens, mais c'est pas la même, quoi, je veux dire. Une présence qui mystérieuse, quoi. Et aujourd'hui, tout ça, ça me semble s'être évanoui, c'est pas possible, mais être absent, quoi. Pourtant, dans le cyberpunk, il n'y a pas d'idée de religion.
Chez William Gibson, la religion a quasiment disparu.
Ouais. Des philosophies, des sagesses, ouais. D'accord.
Oui, mais enfin, même pas de sagesse, hein. C'est des entités surnaturelles dont on ne sait pas trop grand-chose, mais qu'on peut croiser par hasard quand on traîne dans le cyberespace, qui peuvent vous sauver, hein, qui peuvent vous secourir en difficulté. Mais, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une forme d'évolution des intelligences artificielles qui se sont transformées, et comme elles ont des capacités qui dépassent largement les humains, voilà, c'est pas des dieux, mais c'est...
Ah ouais, d'accord. Faut que je pense.
On peut rebondir peut-être sur le néolibéralisme, parce qu'on
a discuté de ça. Oui, avec plaisir, oui.
Par courriel. Un des traits de génie, à mon avis, de ces auteurs-là, c'est d'avoir anticipé effectivement le néolibéralisme, qui allait devenir dominant 2-3 décennies plus tard. Quoi.
Ouais.
Cette érosion de l'État, cette mise en concurrence généralisée de la population, la précarisation généralisée de la population, voilà, ces auteurs-là l'ont traduit et anticipé avec une espèce d'anxiété, quoi. Ils sentaient que l'économie et le monde social étaient en train de changer et que quand vous avez un État qui disparaît et quand les multinationales deviennent dominantes, forcément c'est la population qui pâtit et qui voit son sort se dégrader, quoi. Et la précarisation généralisée, voilà, c'est quelque chose qu'ils avaient senti. Le fait que nos vies soient perpétuellement mises en concurrence, fragilisées, voilà. Et ils ont très bien compris que cette précarisation était aussi une forme de domination. Voilà, dans la conclusion du livre, je parle un petit peu de l'espèce d'atmosphère apolitique qui marque le cyberpunk. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'entités collectives qui puissent défendre le peuple et ses aspirations. Donc il ne reste que des individualités qui sont tellement précarisées et mises en concurrence qu'ils n'ont pas le temps ni l'esprit pour penser à la chose politique. Et donc pour le coup, c'est une forme de domination qui est très brutale, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà, la société, elle est complètement atomisée. Et en quelque sorte, c'est l'incarnation des idées de Margaret Thatcher, quoi. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Et ces individus n'ont que eux, ne peuvent faire confiance qu'à eux-mêmes pour espérer maintenir un semblant de vie à peu près acceptable.
Et encore, la confiance en eux, des individus. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus sur mes émissions. C'est qui avant étaient des personnes avec des singularités. Et justement, le homodernisme a balayé, les a gommés pour qu'ils ne deviennent que des individus en série, quoi. Donc, la confiance, là, je pense qu'ils, je sais pas où ils peuvent la trouver. J'ai même écrit, j'en suis même à me demander s'ils ont assez de réflexion, quand je parle de religion, pour prier.
La situation est telle qu'il n'y a même plus ce type de secours, quoi.
Chaque
individu a rapport à sa vie personnelle, et comme la préoccupation principale, c'est survivre, il n'y a pas le temps de penser à autre chose. C'est du matin jusqu'au soir, quand on n'a pas la chance de faire partie des classes favorisées, la motivation principale, c'est tout simplement survivre. Survivre par tous les moyens, c'est-à-dire que par des petites combines, y compris en se cyborgisant, parce que si beaucoup d'individus deviennent des cyborgs, tout simplement pour survivre, quoi. Et par exemple, Molly, la prostituée mercenaire qui accompagne Case dans Neuron Ancien, c'est le choix qu'elle a fait, quoi. C'est transformer ses yeux et se doter de griffes au bout des doigts pour tout simplement survivre, quoi. Le monde est tellement dur que les individus sont obligés de se transformer en cyborgs. Là aussi, c'est une formidable métaphore du néolibéralisme qui s'est imposé, quoi. À quoi sont réduits nos vies aujourd'hui ? À les améliorer en permanence, et on peut faire le pari que les prothèses, les différentes formes de prothèses et de drogues seront une des prochaines étapes pour résister et arriver à survivre dans un monde et une société qui sont devenues hyper concurrentielles, quoi. Et c'est un peu ça qu'ils ont imaginé et presque anticipé, quoi. C'est très très fort.
Ouais, c'est sûr. Vous avez l'air très convaincu par ce que vous dites et tout ce que vous avez pu écrire. Et c'est sûrement pour cette.
Moi, je suis impressionné par les formes de fulgurance. Alors, c'est des auteurs de SF, hein. Ils n'ont pas de boule de cristal. Mais comme je le disais tout à l'heure, métaphoriser et transformer de manière littéraire des anxiétés ou des impressions, ça peut donner effectivement des fulgurances, et c'est ce qu'on trouve dans le cyberpunk. Et je regrette, et c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans le livre, souvent le cyberpunk est réduit au cyborg, au multinational, etc. En fait, il y a toute une série d'éléments de décor qui sont un peu moins visibles, mais qui là aussi résonnent parfaitement avec notre époque. Chez Gibson, par exemple, c'est le poids croissant de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que les normes sont tellement, et notamment les normes de beauté sont tellement puissantes, que les individus sont aussi incités à se transformer par la chirurgie esthétique. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui, parce que le néolibéralisme, c'est pas seulement qu'une question économique, hein, c'est aussi la mise en concurrence des individus sur le plan de la beauté. La beauté est aussi devenue aujourd'hui une forme de concurrence. Il y a ceux qui réussissent, qui sont les plus beaux, entre guillemets, grâce à la loterie génétique, sociale. Et être moins beau, dans un univers éminemment concurrentiel, c'est partir avec un handicap de départ. Et pour faire le lien avec des travaux actuels, il y a des travaux d'économistes qui ont été faits aux États-Unis qui montrent que la carrière des économistes, plus ils sont beaux, plus leur carrière va être en gros favorable et favorisée. La réussite d'un individu n'est pas uniquement liée à ses qualités personnelles en termes de travail, mais l'espèce d'effet de halo que génère la beauté est aussi un élément de concurrence. Voilà, c'est une espèce de ressource, et de fait, donc en l'occurrence, ces travaux d'économistes arrivent à montrer une corrélation entre la beauté des individus et la réussite qu'ils ont dans leur trajectoire professionnelle et académique.
Oui, une prédestination, quoi. On pourrait dire.
Oui, voilà, en quelque sorte. Voilà. Si on considère que les faits se sont branchés sur le cerveau de certains bébés.
Oui, c'est ça, oui.
Ça vous donne un plus dans votre vie personnelle et votre carrière.
Ah ouais.
Oui, c'est pour ça. Enfin, moi franchement, les cas du cyberpunk, je les trouve très forts, quoi.
Oui, complètement.
Et, voilà, je sais pas si vous le savez, dans des pays comme le Brésil, la chirurgie esthétique est devenue un marché colossal à part entière. Parce que les normes de beauté sont devenues tellement prévalentes que chacun, et notamment les femmes, cherche à améliorer sa beauté pour s'en sortir. Et c'est devenu un élément de concurrence entre les individus.
Ah ouais, c'est pas mal ça.
Voilà. Quand on parle de méritocratie, c'est pas une méritocratie simplement indexée sur le travail personnel et la réussite scolaire. La méritocratie, en quelque sorte, elle est au
Ouais. On est en plein cyber-libéralisme.
C'est un techno-libéralisme, un techno-capitalisme, tel que j'ai après. Voilà.
Ouais, d'accord.
Voilà, le cyber n'est qu'un aspect.
Oui, bien sûr.
Voilà, la chirurgie esthétique est aussi technique à certains égards. Donc il y a les techniques informatiques, effectivement. Il y a toute une série de techniques qui nous entourent et qui font notre monde. Donc c'est pour ça que j'ai préféré parler dans le titre de techno-capitalisme.
Oui, c'est en sous-titre, ouais.
Ils sont globaux que...
Ouais, après, tant qu'il y a du fric à se faire, hein.
c'est le principe du capitalisme. Hein.
Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je le dis, ouais.
C'est accumuler les masses financières.
Exact.
Et c'est ce que traduisent aussi les auteurs cyberpunk à leur manière, oui. Quand on les lit avec un regard un peu plus politique, économique, etc., c'est assez vertigineux.
Hein. Ouais.
Ouais. Quand on les relit à l'aube des travaux sociologiques, hein, je pense aux travaux d'Ulrich Beck sur l'individualisation et sur la mise en concurrence de l'individu,
oui.
De Zippo de Bauman. Bauman s'est beaucoup intéressé aux perdants du libéralisme et du capitalisme. Qu'est-ce que deviennent les individus qui ne parviennent pas à rester dans la course? Et ben, ça devient ce que Bauman appelle des espèces de déchets humains. C'est un peu ce qu'on voit dans toutes les sociétés. Pas seulement périphérique, hein, mais aussi occidental. C'est-à-dire que si vous êtes du côté des perdants, bah, c'est malheur à vous. Quoi. Vous êtes dans la catégorie des quasi-déchets. Vous n'avez plus d'avenir et vous n'avez plus qu'à survivre avec ce que vous pouvez récolter pour survivre.
Ouais, ils sont peut-être pas beaux.
Ah non, pour le coup, ils sont pas beaux. et certains peuvent même faire le choix de venir laids.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il a été transformé en film.
Oui.
Ensuite, il y a une espèce de sous-culture qui s'appelle les low-tech, qui sont un groupe social qui a fait le choix de ne pas recourir aux technologies. Donc c'est low, comme c'est l'inverse de high-tech, quoi, en anglais.
Oui, oui, okay.
Donc eux ont fait le choix de, bah, d'ignorer les avancées technologiques, sauf pour une chose, qui est effectivement l'espèce de chirurgie esthétique à laquelle eux ont recours. Et par exemple, eux se mettent des crocs à la place des dents. Donc c'est une forme d'enlaidissement volontaire. C'est une manière de marquer son refus par rapport aux normes esthétiques dominantes.
Ah, d'accord. Bon. Ok. Bon, c'était super. Vous avez d'autres livres en préparation? Par exemple?
Sur ce qu'on appelle le post-capitalisme.
Oui.
Et mon prochain projet de livre, ça serait une espèce d'enquête intellectuelle sur les origines et les idées brassées par ce courant post-capitaliste. Parce qu'une particularité de ce courant post-capitaliste, c'est de considérer que les technologies ne sont pas forcément négatives, mais qu'elles peuvent représenter aussi des formes d'émancipation. C'est par exemple...
Ah oui.
Donc au lieu de considérer que la robotisation et l'automatisation généralisée ne sont que des pertes d'emploi, on pourrait tout à fait imaginer, et c'est ce que font ces auteurs, que tout cela libérerait en quelque sorte du temps libre pour les humains, qui pour le coup pourraient se consacrer à autre chose. Et si on redistribuait la valeur qui est générée par ces nouvelles technologies, il y aurait moyen pour ces auteurs de passer à un autre stade socio-économique où les humains seraient libérés du labeur, pourrait se consacrer à des tâches plus gratifiantes.
D'accord.
Ça supposerait d'employer différemment les nouvelles technologies.
Oui.
Intelligence artificielle, robotisation, génie génétique et tout y quanti. Et de les mettre dans les mains des populations pour les libérer en quelque sorte.
Thank you.
Après cet entretien avec Yannick Rumpala, auteur de Cyberpunk's Not Dead, à présent nous allons revenir au XVIe siècle. Chaque jour, ou quotidiennement, nous avons les barges russes avec Helmut Schwartz et Johnny Tiefbeck.